L'esprit critique. Mediapart.
On part au musée du Quai Branly pour évoquer deux expositions se tenant sur les mezzanines de la galerie principale du musée. Deux expositions, petites par leur taille, mais ambitieuses par leurs propos. La première tourne autour de l'œuvre de l'artiste Myriam Mihindou et s'intitule « Ilimb, l'essence des pleurs ». La seconde veut, selon son titre, « déborder l'anthropologie ». La première est donc consacrée au travail de cette artiste franco-gabonaise qui a choisi pour titre un mot issu de la langue Pounou qui désigne la trace des larmes tissées par la résine qui se consume, une manière d'évoquer pour elle le décès de son père et les rites d'accompagnement du mort par les pleureuses. La seconde est centrée sur trois figures féminines, anthropologue mais pas seulement, Zora Neale Hurston qui fut aussi romancière et dramaturge et est devenue une référence importante pour beaucoup d'autrices féministes noires, Eslanda Good Robson, anthropologue mais aussi militante anticoloniale et antifasciste, et enfin Kathleen Dunham, qui fut également danseuse et chorégraphe. On ne va pas artificiellement traiter ensemble ces deux expositions qui sont indépendantes, même si elles sont toutes deux dédiées à des femmes noires. Donc commençons avec celle de Myriam Mihindou, dont le commissariat a été assuré par Sarah Ligny et Nathalie Gontier. Comment est-ce qu'elle se présente simplement et qu'est-ce qu'on y voit, Marco Nguyen?
Donc c'est une exposition qui travaille vraiment un parcours tactile, olfactif et sensoriel. Je trouve que cette stimulation de tous les sens à travers l'exploration de différents matériaux, que ce soit une grande liane qui, lorsqu'on la touche, active une pièce sonore, est vraiment une œuvre magique, quoi, puisque non seulement on est invité à la toucher, mais en plus il se passe quelque chose dans l'espace d'exposition.
Il faut bien dire, ouais, c'est une grande liane qui va quasiment tout le long, voilà, de l'exposition, et on vous est invité à se placer sur un petit cercle et à toucher pour,
exactement, pour
ressentir
activer,
quelque chose. Et vous l'avez ressenti.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc face à cette grande liane qui est un peu le fil rouge, qui trace une ligne vraiment claire dans le parcours, différents médiums sont représentés, la céramique, puisque Myriam Mihindou a travaillé avec le craft de Limoges pour reproduire en céramique en fait, des harpes gabonaises conservées dans la collection du musée du Quai Branly. D'autres ensembles de céramique se trouvent au fond de la salle, face à des très beaux dessins sur papier coton. Et on a également cette œuvre très marquante donc, du cheval psychopompe, le cheval qui accompagne les âmes des défunts, qui est faite avec des pièces métalliques. Donc c'est un parcours tout en sensibilité et en exploration matériel qui a vraiment été pensé par l'artiste autour de cette colonne vitrée des collections du musée, donc cette colonne en verre qui présente une collection d'instruments de musique. Moi, je trouve que l'exploration des matériaux et le pari olfactif, sensoriel, musical est réussi, mais je déplore que l'espace de la mezzanine étouffe un tout petit peu la recherche plastique de cette grande artiste. Et de même, je trouve que la mise en dialogue avec les instruments de musique et la collection du musée est peut-être tenue à distance ou un petit peu trop lointaine. Et pour moi, d'un point de vue vraiment scénographique et muséographique, ce dialogue ne se déploie pas vraiment. Mais voilà.
Oui, alors, c'est une des questions centrales qu'on peut se poser, même quand on ne connaît pas le travail de Myriam Mihindou, c'est de sa place là, dans ce musée-là, et dans cette volonté à la fois de dialoguer avec les collections, mais quelque part en leur redonnant vie. C'est ça qu'elle dit, c'est qu'elle a dit qu'elle a senti un peu notamment ces harpes sacrées du Gabon, qu'elle a voulu les reproduire en céramique et un peu les sortir des vitrines. Mais est-ce que cette expérience différente justement du musée et ce dialogue, est-ce qu'il parvient à se tisser, Magali Le Sauvage?
Malheureusement, pas tellement, mais ça, c'est dû, je pense, à la scénographie du musée du Quai Branly en général. C'est-à-dire que, par exemple, justement, la grande colonne dans laquelle se trouvent conservés les instruments de musique du Quai Branly, de tout continent confondu d'ailleurs, se trouve en fait derrière une grande vitre qui en fait subit des reflets très forts, ce qui fait qu'en fait, vraiment, pour les voir, il faut faire un effort important. Et c'est la même chose en général dans les collections permanentes du Quai Branly, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de visibilité des œuvres avec ces vitrines qui reflètent la lumière et qui font que vous voyez vraiment très mal les œuvres. En plus, on est à moitié dans la pénombre. les spots sont mal placés. Enfin, vraiment, bon, ça fait 10 ans qu'on
le
dit.
L'inverse de Robert Reimann.
Voilà, non, mais ça fait depuis, je ne sais plus, 10 ou 15 ans, peut-être que le musée a ouvert. Et c'est depuis le début, c'est un problème. C'est-à-dire que vraiment, on voit très mal les œuvres. Enfin, on a toujours très mal vu les œuvres. Et donc, là, les œuvres de Myriam Mindou, pour le coup, ne sont pas derrière des vides. Donc, on les voit bien. Mais le dialogue se fait difficilement, puisque, en fait, concrètement, il y a un manque, comment dire, de proximité visuelle entre les deux. Et donc, je trouve ça une très bonne idée qu'elle ait voulu dialoguer comme ça, notamment avec les instruments de musique qui ont donc cette âme, hein, comme on parle d'un violon qui a une âme, enfin qui est, dont le corps est une âme, qui donc s'exprime, qui ont voilà du son qui sort. Sauf qu'en fait, ce très beau travail donc où elle mélange les sens, etc. Il est très beau en lui-même, mais le dialogue avec les pièces du Quai Branly ne se fait pas à mon sens malheureusement. Et aussi cet espace donc qui est tout en longueur. Avec cette liane matrice qui effectivement nous guide un petit peu comme ça, qu'on peut suivre de la main en plus pour aller jusqu'au bout, en fait, est très étroit. Enfin, les œuvres se perdent en fait aussi les unes les autres. On comprend pas très bien le parcours. Enfin, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est quand même vraiment dommage qu'une œuvre qui en fait a une cohérence très forte dans le travail de Myriam Mindou, il y a vraiment une cohérence très forte. Et là, malheureusement, c'est un peu ça se dissout en fait. Enfin, ça perd de sa cohésion à cause de cet espace assez ingrat. Il faut savoir que elle sera exposée à la fin de l'année au Palais de Tokyo. Dans des espaces complètement différents, évidemment. Donc voilà, on attend aussi de voir ce que ça donnera là-bas. D'ailleurs, cette exposition, elle dure, je crois, l'exposition du Quai Branly, elle dure jusqu'à la fin de l'année pour qu'il y ait quand même
qu'il
y ait un moment où les deux soient visibles en même temps. Mm-hmm. Mais on attend de voir son travail en France mieux exposé. Il l'avait été à la Verrière à Bruxelles, d'ailleurs, par Guillaume Desanges, le président du Palais de Tokyo, donc voilà, bon, qui suit l'artiste. Il avait été présenté donc à la Verrière à Bruxelles, qui est un espace carré. Où justement, qui doit faire la même surface à peu près que celle qu'elle a au Quai Branly aujourd'hui, mais sauf que c'était un espace carré, donc il y avait quelque chose de beaucoup plus où on était vraiment, on se sentait au milieu de son œuvre. Là, c'est dommage que voilà qu'on puisse pas vraiment entrer dedans.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je le citais en introduction, elle dit cette ambition de convoquer des sens trop souvent atrophiés au sein des espaces muséaux, qu'ils soient olfactifs, tactiles ou auditifs. À la fois, il y a ça, mais moi, c'est vrai que j'ai eu parfois l'impression que, contrairement à ce qu'on peut attendre de cette ambition, c'est-à-dire qu'il reviendra un peu à redonner vie à des instruments de musique, des collections cachées effectivement derrière des vitres un peu opaques ou trop de reflets, qu'au contraire, bah, des fois, moi, je ne l'ai pas complètement senti dans l'exposition, ces sens différents, et que c'était plutôt l'espace de collection du musée du Quai Branly qui débordait sur l'exposition Mindou que l'inverse.
Complètement, et je pense qu'en plus la sensibilité de ce travail, c'est aussi laisser la place aux détails et à tout ce qui est subtil dans les détails. Et je pense par exemple dans cet ensemble de céramique au fond de l'exposition, il y a une empreinte de chaussures très délicate comme ça qui marque le grès. Et en fait, toute cette attention aux détails, pour moi, elle ne peut trouver résonance que quand elle est mise en espace, dans un espace qui lui permet vraiment de se déployer. Et après, bon, il y a des efforts qui sont faits. Je pense là, on peut dire que toute la signalétique est faite sur des sortes de voiles, des voiles un peu flottants. Donc, je pense que c'est conceptuellement, ça veut coller à cette pensée de la légèreté ou voilà, de quelque chose de très spirituel qui fait partie de la pratique de l'artiste, mais qui a du mal à s'incarner dans l'espace muséal, en fait.
Ouais. Moi, juste pour revenir quand même sur certaines œuvres, je trouve qu'effectivement, les céramiques aussi, l'espèce de vase, par exemple, qui est comme pétri, où on voit les traces de sa main, où en fait, on sait que c'est de la terre mélangée avec du kaolin et avec du sel. Ça s'appelle « Toutes les larmes » ou quelque chose comme ça, dans un terme en langue pounou. C'est extrêmement émouvant parce que donc, faut dire aussi qu'elle a fait cette série d'œuvres suite à la mort de son père. Et donc, il y a quand même quelque chose où elle est là. On sent qu'elle a créé cette œuvre en luttant avec la matière et donc comme une sorte de catharsis ou de manière d'exprimer en fait aussi son chagrin comme ça, en malaxant la terre, en la serrant, en essayant d'attraper quelque chose qui lui échappait à ce moment-là. Il y a du sel aussi dans la terre mélangée. Donc, on pense au sel des larmes. Enfin, en fait, c'est un travail qui est très subtil et qui, effectivement, là, bon, n'est pas forcément très bien rendu dans sa subtilité. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça, de s'approcher des œuvres et peut-être de faire abstraction, à la limite, de faire abstraction du musée, de se concentrer sur ces œuvres qui sont très fortes et qui sont très accessibles aussi à des sentiments très,
très,
très intimes, ouais. Voilà, et très sincères, ouais. Exactement.
On change de mezzanine et d'exposition en se dirigeant vers celle intitulée « Déborder l'anthropologie » consacrée à trois femmes noires américaines qui ont été anthropologues mais pas seulement. Si elles ont débordé l'anthropologie, ce n'est pas seulement parce qu'elles étaient aussi romancières, militantes ou chorégraphes, mais aussi parce qu'elles ont bousculé une discipline, l'anthropologie, dont on connaît les origines coloniales, alors qu'elles se plaçaient toutes trois dans une perspective antiraciste, antiségrégationniste et anticolonialiste. Le commissariat de l'exposition est assuré par Sarah Friou-Salgas. Alors moi, j'avoue avoir découvert l'existence de ces trois femmes avec cette exposition. Donc peut-être que le mieux est de commencer en les présentant chacune. Vous commencez, Margot Nguyen ?
Oui. Bah déjà, ouais, vraiment, moi, gros coup de cœur pour cette exposition sur la mezzanine d'en face. Et je trouve que cette exposition qui est plus historique, en fait, réunit un certain nombre de documents. Là aussi, il y a un vrai effort pour mettre des extraits sonores, des photographies. Enfin, je trouve que ça documente de manière très, très vivante les parcours de vie de ces trois femmes. Et ça montre extrêmement bien la manière dont elles ont articulé une pratique de l'anthropologie à une production artistique, qu'elle soit littéraire ou alors dans la danse. Et je trouve que la manière dont la commissaire, Sarah Friou-Salgas, a vraiment créé un lien entre terrain anthropologique et approfondissement d'une démarche artistique. C'était extrêmement inspirant et ça s'est ressenti dans la manière de présenter leur parcours. La première, Zora Neale Hurston, développe un intérêt pour le folklore.
Moi, je vais juste faire les dates. Née en 1891 et morte en 1960.
Oui. Pardon. Donc, développe un fort intérêt pour la collecte de légendes, de proverbes, de récits, de chansons. Et tout cet intérêt pour le folklore se double aussi d'un intérêt pour les rituels, pour certains rituels, notamment des rituel vaudou. Il y a cette photo extraordinaire où elle performe en fait son terrain et où elle fait la danse du corbeau aux Bahamas. Et donc cette première figure, en fait, l'exposition nous montre très bien comment est-ce que tout ce terrain est réinjecté dans une production de nouvelles, de romans et de spectacles que je trouve fascinant. La deuxième figure, qui est Eslanda Good Robson, est pour sa part une figure politique. C'est la militante décoloniale et antifasciste qu'on nous présente.
Donc, née en 1895 et morte en 1965.
Si. Et qui déménage à Londres, qui s'installe en Angleterre et qui fait beaucoup de terrain en Afrique du Sud notamment. Et donc là, on est sur une figure, sur l'analyse plutôt d'une trajectoire politique.
Et la troisième... on va laisser Magali Le Sauvage la présenter. Ouais. Catherine Dunham, et moi je vais toujours faire les dates. Elle a vécu beaucoup plus longtemps puisqu'elle est morte en 2006 à 96 ans.
Voilà. Donc qui était une pionnière de la danse moderne qui est malheureusement assez mal connue en France, alors qu'en fait, en visitant l'exposition, on se rend compte que son ballet Southland, il y a eu une unique représentation mondiale en 1953 au Théâtre de Chaillot à Paris, et que cette pièce qui avait fait scandale et qui a été censurée ensuite aux États-Unis montrait à la fin une scène de lynchage d'un noir qui évidemment donc évoquait des épisodes du sud des États-Unis. Et donc c'est quand même assez étrange que cette histoire-là ne soit pas connue en France.
Oui, là on voit quand même le décalage d'un bord à l'autre de l'Atlantique.
Bah, surtout que cette pièce a été présentée à Paris. Donc ouais. C'est quand même assez étonnant qu'on la prenne.
Enfin, parlais des mémoires moins temps des circulations, oui, que des mémoires qui sont faites justement de...
Voilà, pourquoi est-ce que nous, Parisiens, Français, la prenons... Enfin, en tout cas, nous, parce évidemment, il y a des gens qui le savent, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas très connu. Et donc, c'était une danseuse et une chorégraphe qui aussi était militante contre la ségrégation aux États-Unis, qui a tourné dans le monde entier et qui a étudié en particulier aussi les danses dans les Caraïbes françaises, d'ailleurs, notamment en Martinique, qu'elle a filmé. Et ensuite, donc ça, c'était son travail d'anthropologue, mais étant aussi danseuse et chorégraphe, elle a souhaité aussi apprendre ses danses et ensuite les retranscrire dans ses ballets. Et ce que je trouve intéressant, moi, dans l'exposition, c'est que ces trois femmes, en fait, de par le fait qu'elles étaient africaines-américaines, se sont impliquées en tant qu'anthropologues aussi dans l'histoire qui était peu étudiée à ce moment-là dans l'anthropologie, non seulement des communautés africaines-américaines, donc dans le sud des États-Unis, par exemple en Louisiane ou en Floride, mais aussi donc en Afrique même et aussi dans les Caraïbes. Et donc c'est quand même un certain changement aussi dans l'anthropologie.
Oui, c'est ça. C'est pas déborder l'anthropologie, c'est pas simplement avoir une autre activité qu'anthropologue, comme on pourrait le croire, puisqu'elles ont toutes fait autre chose. c'est changer la manière de l'appréhender. Rencontrer. Ouais.
Et puis, c'est pas être dans le rapport à l'autre, comme on dit, qui quand même est quand même le gros défaut de l'anthropologie. Enfin, s'il y a un défaut, c'est bien celui-là, c'est qu'il y a nous et les autres. Et que là, justement, il y a cette idée de retrouver un peu, comment dire, pas des origines, parce que cette quête, on sait qu'elle est un petit peu vaine, mais en tout cas, retrouver une africanité, je pense. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à un livre qui a été traduit récemment en français de Saadia Hartman, qui s'appelle « À perte de mère »,« Lose your mother » en anglais, qui a été traduit par Mabula Soumaoro et qui est édité par les éditions Brook, qui est cette chercheuse, donc Saadia Hartman, africaine-américaine, qui en fait est allée au Ghana et est allée pour essayer de comprendre en fait l'esclavage, comment ça avait pu avoir lieu. Et en fait, elle mêle son travail de chercheuse, sociologue, historienne, à évidemment le fait que ce soit une femme noire américaine qui arrive en Afrique, où en fait elle comprend que, si vous voulez, il y a une sorte d'impasse, d'impossibilité. C'est-à-dire qu'en Afrique, on lui dit « non, mais toi, t'es une Américaine, t'es pas comme nous, on peut pas vraiment se parler ». Et aux États-Unis, évidemment, elle subit le racisme puisqu'elle est noire. Et donc, en fait, on voit que c'est d'ailleurs intéressant que ce soit beaucoup des femmes aussi qui soient dans ces démarches-là. Parce qu'il y a quelque chose, d'une sorte de condition, de sous-condition, hélas, des femmes, qui fait que peut-être l'idée de retracer ces histoires est d'autant plus importante.
Myriam Mindou, L'essence des pleurs et Déborder l'anthropologie ont toutes deux ouvert au musée du Quai Branly Jacques Chirac le 6 février dernier. La première est visible jusqu'au mois de novembre, tandis que la seconde vous attend jusqu'au 12 mai.
L'esprit critique. Mediapart.